Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la maladie de Castleman et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Véronique Ménien. Docteur Ménien, bonjour.
Bonjour.
Docteur Ménien, vous êtes anatomopathologiste et praticien hospitalier au sein du service d'anatomie et cytologie pathologique à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Votre laboratoire est associé au centre de référence de la maladie de Castleman et vous faites partie du groupe de travail multidisciplinaire qui a participé à l'élaboration du récent PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins dédié à la maladie de Castleman sous l'égide de la filière Marie. Alors, docteur Ménien, ma première question est très pratique. Devant une suspicion de maladie de Castleman, que biopsier et comment biopsier?
Alors, la maladie de Castleman, quel que soit son type, atteint essentiellement les ganglions. C'est donc sur des prélèvements ganglionnaires que le pathologiste va porter ce diagnostic. Alors, il existe deux types de prélèvements ganglionnaires, les prélèvements dits microbiopsiques et les pièces d'exérèse ganglionnaires. Les prélèvements microbiopsiques sont réalisés dans le service de radiologie par le radiologue sous repérage scanographique ou échographique selon le siège superficiel ou profond du ganglion à prélever. Les exérèses ganglionnaires seront, elles, réalisées dans le bloc opératoire par le chirurgien sous anesthésie générale. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux types de prélèvements? Les prélèvements microbiopsiques ne nécessitent pas d'anesthésie générale. Ils ne donnent que peu de complications, bien sûr, entre les mains de gens expérimentés. Et de plus, ils sont faciles à programmer et ils sont peu coûteux. Alors, leur seul inconvénient, c'est que ce sont souvent des prélèvements de petite taille. Ils mesurent en moyenne 1 cm de long sur 1 à 2 mm de diamètre. Et problème dans les cas difficiles où on peut avoir besoin de plus de matériel. Alors, les prélèvements chirurgicaux vont, eux, permettre d'obtenir des ganglions entiers, donc des prélèvements de plus grande taille. Mais leur inconvénient, c'est qu'ils nécessitent bien sûr une anesthésie générale et ils peuvent donner aussi des complications comme une cicatrice dysesthétique et des séquelles comme un gros bras ou une grosse jambe. Et enfin, ils sont également plus lourds à programmer. Alors, le type de prélèvement à privilégier sera différent en fonction du sous-type de maladie de Castleman. Dans la maladie de Castleman unicentrique, le diagnostic est le plus souvent porté sur des pièces d'exérèse chirurgicale. Le diagnostic de maladie de Castleman multicentrique HIV positive pourrait être porté, lui, sur des prélèvements microbiopsiques sans problème. Par contre, dans la maladie de Castleman multicentrique idiopathique, on privilégiera si possible les prélèvements chirurgicaux car c'est un diagnostic qui est souvent plus difficile à porter. Et enfin, au moindre doute diagnostique ou s'il existe une discordance avec les éléments cliniques, on pourra être amené à réaliser de nouveaux prélèvements microbiopsiques ou chirurgicaux sur le même ganglion ou éventuellement sur un autre ganglion.
Alors, une fois la biopsie réalisée, quelles sont les caractéristiques anatomopathologiques d'une maladie de Castleman?
Alors, maladie de Castleman, quel que soit son sous-type, va associer sur le plan anapath différents types de lésions élémentaires qui vont toucher d'une part ce qu'on appelle les follicules lymphoïdes, qui sont des zones nodulaires constituées de lymphocytes B, dans le lion, mais elle va toucher également les zones dites interfolliculaires, qui sont donc, comme leur nom l'indique, situées entre les follicules lymphoïdes et qui sont, elles, constituées de lymphocytes T. Alors, ces lésions élémentaires sont, pour les follicules lymphoïdes, l'aspect atrophique de ces follicules, l'hyperplasie des cellules folliculaires dendritiques qui se trouvent dans le centre de ces follicules, et pour les zones dites interfolliculaires, ce sera une hypervascularisation et une plasmocytose, c'est-à-dire la présence de très nombreux plasmocytes. Alors, selon la présence ou non et l'importance de ces lésions, on va définir trois sous-types histologiques. Le premier est dit hyalin vasculaire. Il va associer des anomalies des follicules et une hypervascularisation. Le second est dit plasmocytaire. Il associe, comme son nom l'indique, une plasmocytose et une hypervascularisation. Et enfin, on a le sous-type dit mixte dans lequel on va observer toutes ces lésions. Alors, ces sous-types histologiques sont plus ou moins fréquents selon le type de maladie de Castleman. Ainsi, dans la maladie de Castleman unicentrique, le sous-type le plus fréquent est le type dit hyalin vasculaire. Dans la maladie de Castleman multicentrique HIV positive, On observe essentiellement les sous-types plasmocytaires et mixtes. Et par ailleurs, dans cette maladie de Castleman multicentrique H8, on pourra mettre en évidence, par des techniques complémentaires, notamment immunohistochimiques, le virus HHV8 dans le noyau des cellules infectées. Enfin, dans la forme de maladie de Castleman multicentrique idiopathique, tous les sous-types histologiques pourront être observés.
Et maintenant, docteur Ménien, d'un point de vue anatomopathologique, quels sont les diagnostics différentiels à écarter ?
Alors, les diagnostics différentiels sont différents selon le sous-type de maladie de Castleman. Dans la maladie de Castleman unicentrique, le principal diagnostic différentiel est le lymphome de Hodgkin. Dans la maladie de Castleman multicentrique HHV8 positive, les diagnostics différentiels sont représentés par d'autres pathologies liées à l'HHV8. Et enfin, pour la maladie de Castleman multicentrique idiopathique, là, il existe de nombreux diagnostics différentiels à éliminer. En effet, les lésions élémentaires qui sont observées ne sont pas spécifiques de la maladie de Castleman multicentrique idiopathique. Alors, ces diagnostics différentiels sont, pour les pathologies tumorales, essentiellement les lymphomes, en particulier le lymphome de Hodgkin, mais également des proliférations plasmocytaires. Et pour les pathologies non tumorales, ce sont des pathologies infectieuses, comme l'infection par le VIH, le BV, mais également des pathologies auto-immunes comme le lupus, la maladie de Still, la polyarthrite rhumatoïde, également des déficits immunitaires. Donc, pour éliminer tous ces diagnostics différentiels, le pathologiste pourra s'aider de techniques complémentaires, notamment dites immunohistochimiques. Et enfin, il confrontera toujours ce qu'il observe avec les autres données cliniques ou biologiques.
Alors justement, docteur Ménien, d'un point de vue diagnostique, quel est le rôle de l'anatomopathologiste dans l'approche diagnostique de la maladie de Castleman ?
Alors, l'anatomopathologiste a un rôle important dans le diagnostic de cette maladie. C'est lui qui va confirmer ce diagnostic s'il est suspecté par le clinicien ou alors le suggérer s'il n'a pas été évoqué par celui-ci. Alors, dans cette pathologie, en particulier pour la maladie de Castleman multicentrique idiopathique, il faut souligner, je crois, l'importance des échanges entre cliniciens et pathologistes, d'une part pour arriver à affirmer le diagnostic, ce qui n'est pas toujours facile, mais également d'autre part pour éviter les diagnostics par excès.
Dernière question, docteur Ménien. Lors de la préparation de notre entretien, vous avez évoqué l'importance du travail en réseau des anatomopathologistes, et notamment dans la gestion des cas compliqués à diagnostiquer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
La maladie de Castleman est une maladie rare qui est parfois de diagnostic difficile. Et donc, c'est pour cette raison qu'a été mise en place à l'hôpital Saint-Louis, dans le service du professeur Roxane Adler, une RCP nationale qui a lieu tous les mois. Alors, lors de cette RCP, les cliniciens des autres centres, mais également les pathologistes, vont pouvoir venir présenter les dossiers qui leur posent problème. Alors, s'ils ne peuvent pas être présents, ils pourront également envoyer les éléments de ces dossiers éventuellement par mail. Et les pathologistes pourront également nous communiquer les prélèvements histologiques. Et donc, lors de cette RCP, on aura tous les éléments nécessaires pour discuter et proposer un diagnostic et un traitement.
Eh bien, merci mille fois, docteur Ménien, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie de Castleman du point de vue de l'anatomopathologiste. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur la maladie de Castleman. À très vite.